Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'Elon Musk ni de Twitter, juste pour le faire chier. Voilà, ça c'est fait. Mais bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 mai. On est bien en mai, je n'arrive pas à y croire, mais nous sommes bien en mai. Et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud chez vous, que vous êtes fait un café frappé ce matin. Moi, il est un peu trop chaud là, mon café. Que vous avez pas trop transpiré cette nuit. Nous, ça allait, à Paris, il y avait un petit air frais. Mais j'avoue que j'ai la chance maintenant d'être dans un appart où je peux faire un courant d'air. Ça aide la climatisation du Parisien, le courant d'air. Exactement. Mais il faut faire attention parce que les courants d'air, on peut attraper. On peut rester coincé dans un courant d'air. Un jour sans Elon Musk, oui, c'est une journée sans Elon Musk. Pourtant, il y aurait des choses à dire. Il serait très content qu'on parle de lui aujourd'hui. Mais non, je ne vais pas parler de lui. Je ne vais parler que d'Apple, comme vous l'avez deviné. Non, en vrai, on a 3 articles sur Apple. Donc, certains, là, je viens de faire un ascenseur émotionnel. Ah ouais, on va pas parler d'Elon Musk. Oh non, on va parler d'Apple. Ah, c'était ça ou des NFT, hein? Ou de la crypto? Les mono-sujets de la tech. Les mono-sujets de la tech. En tout cas, un grand merci à Vindev. Admirez les gens qui essayent de démarrer le train de la hype pour vous. Vindev L84 pour son 4e mois, Citron bien mûr, son 12e mois d'abonnement. Jean-Jacques pour son 2e mois d'abonnement. Samuel pour son 26e mois d'abonnement. Un grand merci spécial à toi, Samuel. Non, c'est bon, Apple. Merci, Nobsib, dont c'est la première intervention, qui nous dit « Ok, c'est bon, vous pouvez parler quand même d'Apple, ça va. » Merci, merci. Allez, on se le fait démarrer, son train de hype, là. Go, 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 vos primes, là. Allez checker si c'est pas la date anniversaire de votre prime. Merci, Oxymore, pour ton 22e mois d'abonnement. Ah ouais, non, maintenant, j'ai plus de respect, j'ai plus de honte. On vous demande vos primes à n'importe quel moment. Boum, boum, boum. Non, mais en vrai, allez checker quand même. C'est la date anniversaire de votre prime, c'est pas aujourd'hui. Il y a plus de filtre ici, ouais. On se respecte plus. C'est la crise. C'est la crise, ma bonne dame. C'est ça, hein. Faut se battre. Faut survivre. Exactement. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui si on parle pas d'Elon Musk ni de Twitter? Ça va limiter les sujets quand même hein, en ce moment. Non, ça va, on en a des sujets. On va commencer justement en parlant de cookies, ce qui est excellent pour accompagner le petit déjeuner. Non, en vrai, ne prenez pas des cookies à votre petit déjeuner, c'est bourré de sucre. C'est pas une bonne idée. Par contre, éviter de payer les cookies est valable, mais le tarif doit être raisonnable. La bourse ou les cookies, excellent titre de Numérama. On parlera effectivement de la CNIL et les fameux cookie walls qu'on rencontre de plus en plus dans notre navigation. Jérôme ne respecte plus ses abonnés, si, mais je respecte les abonnés payants. Désolé, hein, la perche était un peu facile. Camille. On va parler ensuite d'accessibilité. Apple dévoile des très nombreuses fonctionnalités à venir. Effectivement, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité. Et on va parler des nouveautés en termes d'accessibilité côté Apple. On restera chez Apple puisqu'on va supputer. Puisque Apple testerait des écrans e-ink à faible consommation pour son iPhone. Mon Dieu, est-ce qu'on va avoir du 2 frames minute sur nos iPhones? Ne paniquez pas, je vais vous expliquer. On parlera également, et on terminera chez Apple, on parlera du casque AR-VR, l'arlésienne d'Apple en ce moment. On s'aperçoit, en tout cas, on peut extrapoler que la conception de ce casque n'a pas été un long fleuve tranquille chez Apple, notamment face à des scepticismes internes sur la viabilité du truc et scepticismes externes. Hein, on n'est pas sûr que ça servira à quelque chose aussi. Nous terminerons en parlant d'algues. Des scientifiques alimentent un processeur grâce à des algues. Je n'en dis pas plus. Je vous mets l'algue à la bouche. Et on en parlera en fin d'émission. Mais en toute fin d'émission, nous aurons une tartine qui va vous plaire, en tout cas certains d'entre vous. Et si finalement les jeux vidéo rendaient intelligents ? Grande et vaste question à laquelle nous tâcherons d'apporter une réponse. Voilà en tout cas pour le programme du jour. Bah, j'espère qu'il vous plaît parce que j'en ai pas d'autres. Et on va commencer tout de suite en lançant le Kawa. Un énorme merci à Chris qui a offert 5 abonnements communautaires aujourd'hui. Et merci Oxymore, 22e mois d'abonnement. Merci à vous. Il n'y a pas encore le train de la hype, mais il est plus très loin. Hein. Plus très loin. Comment on fait un Prime ? Je le dirai tout à l'heure, mais là, Samuel vient de te mettre un lien. Donc, tu peux le faire dès maintenant. KiffLFR. Salut John Duff, salut Tini, salut Dragonfly, bonjour à tous. Allez, on commence avec le premier article. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Vous allez voir des choses. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on va essayer d'être performant et on va commencer avec un article de Numérama. Payer pour éviter les cookies est valable, mais le tarif doit être raisonnable. Effectivement, la CNIL trace ses premières pistes pour évaluer la légalité des cookie walls. Alors, les cookie walls, vous le voyez sur certains sites, les plus connus actuellement sont Allociné et jeuxvideo.com. C'est ces fameux sites où on vous dit, est-ce que vous voulez l'activation des cookies publicitaires ? Si vous ne voulez pas, il faut que vous payiez tant d'argent. Ça avait créé une levée de bouclier, c'est normal, quand ça avait été mis en place en 2021. Mais on va en parler justement. La CNIL est en train de se pencher sur le problème. L'avenir de l'accès de l'information en ligne se résumera peut-être un jour à la question suivante. Préférez-vous accepter des cookies traceurs et accéder au site gratuitement, ou souhaitez-vous les refuser et payer une petite somme en échange? C'est en tout cas dans cette direction que le web français se dirige avec l'émergence des cookie walls depuis plusieurs mois. Préférez-vous l'accès gratuit mais soumis aux cookies publicitaires, ou bien l'accès sans ces traceurs, contre quelques euros et pour une durée variable, un mois généralement? Des sites comme Allociné ou jeuxvideo.com qui appartiennent au groupe Webedia ont ainsi sauté le pas depuis 2021. Cette nouvelle approche a nourri des questions légitimes. Est-ce que cette manière de faire est licite ? Beaucoup ont demandé est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? La liberté de consentement est-elle remise en cause avec un choix qui peut apparaître orienté ? En gros, est-ce que vous pouvez choisir librement entre la publicité et payer ? En somme, est-ce que la pratique est conforme au RGPD ? La question avait été tranchée en 2020 par une décision du Conseil d'État. La CNIL ne peut légalement interdire dans ses lignes directrices les cookie walls. Donc, réponse, c'est légal. Avait lancé la plus haute juridiction de l'ordre administratif français. En l'espèce, la CNIL avait excédé ce qu'elle pouvait légalement faire en cherchant à obtenir une interdiction globale de ces murs de traceurs. Donc, la CNIL avait essayé d'interdire ces cookie walls. Hein. Pour autant, l'absence d'interdiction générale concernant les cookie walls ne signifie pas qu'elle ait permis de faire n'importe quoi avec. Et c'est justement à ce niveau que la Commission nationale de l'informatique et des libertés entend agir en définissant les critères d'évaluation afin de dire si tel ou tel cookie wall est licite et s'avère excessif. Licite. Donc, je résume ce que je viens de dire. Les cookie walls, c'est légal. Les cookie walls, les murs de cookies, Crespo. T'imagines un vrai mur de cookies? Les cookie walls. Donc, c'est légal, mais la CNIL va quand même vérifier qu'il n'y a pas d'excès. Alors, comment ils vont vérifier et qu'est-ce qu'un excès? Vous avez 2 heures. Autrement dit, alors, dans une note publiée le 16 mai, l'autorité de la protection des données personnelles a ainsi partagé ses premiers critères d'évaluation. Ces indicateurs ont vocation à s'appliquer pour tout le monde, mais en tenant compte du cas par cas. Ce faisant, il n'est pas possible pour la CNIL de définir dans l'absolu le montant fixe qu'il faudrait verser en alternative aux cookies traceurs. Autrement dit, un site pour être légitime pour proposer un paiement de 2 euros pour accéder à son contenu pendant un mois sans cookies publicitaire, tandis qu'un autre pourrait l'être tout autant avec une facturation d'un, 5 ou pourquoi pas 10 euros. En fait, la CNIL indique que l'alternative payante doit reposer sur un tarif raisonnable. Qu'est-ce qu'un tarif raisonnable? Tel montant est celui qui n'est pas de nature à priver les internautes d'un vrai choix. En effet, si le prix est trop élevé, les internautes seront enclins mécaniquement à aller sur l'acceptation des cookies traceurs. Et ce faisant, la liberté de consentement définie par le RGPD sera faussée. En gros, si c'est trop cher, c'est comme si on vous privait de votre choix d'avoir de la pub ou pas. Enfin, des cookies traceurs ou pas. C'est pas une question de pub, parce que même si vous n'avez pas des cookies traceurs, vous avez quand même de la pub. Je vais revenir dans les détails, parce que j'imagine que vous avez des questions. Cette analyse ne peut se faire qu'au cas par cas. La CNIL demande à ce titre aux gestionnaires de sites web d'être en mesure de justifier du caractère raisonnable de la contrepartie monétaire proposée. Et pour cela, il faut que le gérant du site puisse rendre public la façon dont il est parvenu à ce montant et pourquoi il est valable pour un temps seulement. C'est une question de transparence. En gros, je vous la fais en gros, le site doit dire... Voici ce que je perds comme argent avec une consultation sans cookie traceur. Voilà en gros combien ça me coûte d'argent en moins d'accepter une consultation de mon site sans les cookies traceurs. Et à partir de là, de calculer le prix de la compensation. Mais il doit être en mesure de présenter un calcul vérifiable pour le calcul de son prix. En gros, je vous résume. Si je suis un site qui arrive à vendre très très cher mes publicités avec une personnalisation grâce à mes cookies traceurs et que j'arrive à justifier que chaque consultation où il n'y a pas les cookies, eh bien, je perds, je sais pas, 3 euros par vue de l'ensemble de mes pubs, bah, j'ai justifié, en gros, de faire payer 3 euros en l'absence des cookies publicitaires. Donc, quelque chose de transparent et, entre guillemets, de légal. L'usage des cookie walls s'avère relativement nouveau et son cadre encore fluctuant. La CNIL dit ainsi attendre une éventuelle intervention de la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet qui viendrait fixer les lignes directrices. En attendant que l'Union européenne se bouge le cul, ce n'est pas dans l'article, la CNIL établit ses propres règles, car selon l'autorité, les plaintes s'accumulent, tout comme l'incompréhension du public. Alors, on va faire simple. Un site d'information ne peut pas être gratuit. Il faut qu'ils payent leurs journalistes, etc. Donc, j'espère qu'on va pas tomber dans le débat de pourquoi ils font pas ça pour la gloire. Ok, un site a besoin d'argent. Je vous rappelle que ces fameux cookies traceurs, et c'est hyper important à comprendre, n'enlèvent pas la publicité si on ne les accepte pas. Ça va simplement enlever la publicité ciblée et garantir que la consultation du site fera que vous n'aurez pas de cookies qui vont tracer votre activité, notamment d'un site à l'autre. On avait décortiqué hein, le problème et des confidentialités, des cookies, etc. Apple en a fait son cheval de bataille et lutte de son côté contre ça, contre le fait qu'on puisse vous tracer d'un site à l'autre et définir des profils d'utilisation d'Internet et donc des profils de consommateurs extrêmement précis, qui permet ce fameux effet que vous avez tous de vous dire « mais c'est pas possible, on m'écoute ». Ils arrivent à anticiper « oh là là, j'ai eu une pub pour la paella, alors que j'ai parlé de paella avec des potes, mais je l'ai jamais écrit sur Internet ». Ouais, simplement, la paella, on l'a extrapolé. Ce serait un très bon t-shirt. La paella, on l'a extrapolé. voilà, les cookies aujourd'hui, et je sais... Je sais, tous les matins, quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites, je ne suis pas quelqu'un de prévisible. Je ne suis pas quelqu'un qui peut être résumé à des algorithmes et à des comportements prévisibles. Mais en fait, vous l'êtes. On est en plein Black Mirror. Vous êtes ultra prévisibles, tous. Et encore plus ceux qui disent qu'ils ne sont pas prévisibles. Parce que ça aussi, c'est prévu. Donc, il n'y a pas de perte en termes de publicité. C'est une très bonne question, Bombadil. Si, il y a une perte énorme. En gros, une publicité qui va se reposer sur des données de cookies traceurs va être facturée, j'ai pas les chiffres exacts, mais globalement, ça coûte 10, 20 fois plus cher qu'une publicité qui n'est pas ciblée. Pour ça, je vais vous faire une analogie. Souvenez-vous, autrefois, et on en reçoit encore maintenant, quand vous avez des publicités dans votre boîte aux lettres physique, celle où autrefois on recevait du courrier, vous receviez plusieurs types de publicités. Vous receviez des publicités, ce qu'on appelle toute boîte. C'est un prospectus qui est jeté par hasard. On regarde même pas votre adresse et qui vous êtes. On vous met de la pub comme ça dans la boîte. OK? Mais vous receviez aussi des publicités à votre nom. La petite enveloppe, ouvrez-moi, avec votre nom, vous avez gagné quelque chose ou voilà une information vous concerne. La publicité dans votre boîte aux lettres qui portait votre nom était une publicité ciblée. Elle a été envoyée parce que ça coûte beaucoup plus cher d'envoyer dans une enveloppe, etc. Vous étiez sur un fichier, en fait. On vous a pas envoyé cette pub par hasard. On vous l'a envoyé parce qu'elle est susceptible de vous intéresser, parce que vous avez été qualifié dans un fichier. Ok, vous me suivez jusque là? Alors que les publicités toutes boîtes, on les jette juste dans les boîtes en se disant peut-être que ça intéressera certaines personnes, mais on sait pas trop. Ok? Donc c'est ça qu'il faut que vous veniez. Mais je l'avais prévu, hein, Carcajou, que t'allais faire la toupie tout nu. Hein. Je savais que quelqu'un allait le faire. Donc est-ce que vous comprenez déjà? Comment fonctionne le prix d'une publicité? Plus la publicité est ciblée, plus elle est qualifiée, comme on dit dans le métier, enfin, plus l'espace publicitaire est qualifié, plutôt, plus elle vaut cher. Pourquoi elle vaut plus cher? Parce que il y aura un taux de rejet de cette publicité qui sera moindre, parce qu'a priori, les sujets de la publicité sont susceptibles de vous intéresser. Donc, ça, c'est peut-être une info que vous n'avez pas et que je vous donne. Si des sites mettent des cookie walls en vous disant vous devez payer si vous voulez pas les cookies, c'est que pour eux, c'est un gros manque à gagner. La publicité non ciblée, ça vaut pas très cher. Honnêtement, ça rapporte pas beaucoup au site. La publicité, on va dire random, je te mets n'importe quoi comme bannière sur la page, c'est payé très peu cher, en fait. Et ça rapporte très peu. Alors qu'une publicité avec des informations liées à des cookies traceurs vaut beaucoup plus cher. Donc déjà, vous comprenez pourquoi ça existe. Au-delà de votre révolte anti-publicité, vous comprenez pourquoi certaines publicités valent plus cher que d'autres. Les publicités, c'est pas un prix fixe. Loin de là, d'ailleurs. Bien sûr que la publicité ciblée n'est pas née avec Internet. Je viens de vous parler des mailings, justement, de la publicité dans les boîtes aux lettres physiques. On en a tout depuis que la poste existe. Je vous le dis à chaque fois, mais je le redis parce qu'on a peut-être des nouveaux. sachez quand même que la Poste française, les PTT, depuis quasiment, je crois, les années 70, vendent des fichiers du profiling de toute personne qui a une boîte aux lettres. Et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut savoir sur vous, rien qu'avec votre adresse postale. Le quartier où vous habitez, on peut en déduire votre niveau de revenu, on peut en déduire votre âge, on peut en déduire le nombre d'enfants statistiquement que vous avez, vos habitudes de consommation. Moi, j'ai travaillé dans ce secteur-là, ce qu'on appelle on l'appelle toujours le marketing direct. Vous n'imaginez pas à quel point on peut arriver statistiquement à avoir du data sur les gens rien qu'avec une adresse. Moi, j'ai travaillé notamment pour des coopératives vinicoles qui vendaient du vin artisanal à distance. C'était fou, la précision du truc. On arrivait à déduire de certaines adresses potentiellement le nombre de litres de vin, de vin un peu précieux, qu'une personne était capable, susceptible d'acheter par an, quoi. Et je vous jure que ça marchait hyper bien. Donc, on en revient à un autre sujet. Aujourd'hui, ces sites vous disent, si vous enlevez les cookies, la pub est beaucoup moins rentable pour nous. Donc, vous avez le choix. Si vous les enlevez, ben, il faut que vous payiez la différence. Et ce que dit la CNIL, elle dit, OK, c'est pas illégal de faire ça, mais il faut que vous justifiez que le prix que vous demandez est à hauteur de ce que vous perdez sur la publicité. T'as une idée de grandeur entre les deux ? Bah, comme le répond Olek, en fait, le ciblage est plus ou moins précis, en fait. Plus il est précis, plus il coûte cher. Une règle, par exemple, du marketing direct, c'est qu'un fichier qu'on dit hautement qualifié de 50 personnes, dont on connaît très bien les habitudes, peut coûter beaucoup plus cher qu'un fichier d'un milliard de personnes non qualifiées. C'est-à-dire dont on sait pas trop leurs habitudes de consommation. En fait, ça, si vous voulez comprendre comment fonctionne Internet aujourd'hui et le marché publicitaire d'Internet et le fameux Internet gratuit, pourquoi il rapporte autant d'argent aux GAFAM, c'est parce que la donnée comportementale, ça vaut de l'or. Ce n'est pas vos données qui valent de l'or. C'est ce qu'on arrive à en extrapoler. Vos habitudes de consommation valent de l'or. Et toi, Pierre, qui nous regarde, on s'en fout de qui tu es. Par contre, ce que tu fais et dans quel groupe on va pouvoir te classer, ça, ça vaut de l'or. En même temps, payer pour consulter Allociné, tu es sûr que ça vaut le coup ? J'ai pas d'avis tranché sur la question. J'avoue que je suis très partagé. Bien évidemment, il faut que ces sites gagnent leur vie pour continuer à payer des journalistes et à exister. C'est très bien qu'on soit de plus en plus défiant contre la publicité, mais jusqu'ici, on n'a pas un génie. Alors peut-être qu'il est dans le chat, hein. Et s'il est dans le chat, je lui demande de se réveiller aujourd'hui. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé un génie qui vienne dire « j'ai la solution » pour qu'Internet reste gratuit pour tout le monde, mais que tout le monde puisse gagner l'argent de son travail. J'ai la solution. Personne n'a trouvé une solution pour remplacer le business publicitaire. Et une subvention par les opérateurs Internet. Mais qui va la payer, la subvention ? Enfin, donc les opérateurs vont augmenter le prix de nos connexions pour verser une subvention ? Alors, Claymon nous dit « j'ai la solution ». Nous écoutons tous la solution de Claymon qui va résoudre le problème de l'Internet mondial. On t'écoute, Claymon, sans pression, hein. une solution, la fin du capitalisme. Flonflon, je veux bien qu'on ait cette discussion, mais qu'est-ce que tu proposes en alternative au capitalisme? Moi, je veux bien. Capitaliste, je suis le premier à avoir les défauts du capitalisme. Mais qu'est-ce que tu proposes en échange? Alors, attendez, il faut pas qu'on rate quand même la solution de Clément. On va peut-être résoudre le problème de l'Internet mondial hein, ce matin. Alors, Clément nous répond. Alors, d'après les chiffres, on doit faire payer les riches. Oui, mais comment les riches deviendront riches? C'est une autre question que je pose. Parce que si on fait payer les riches, il n'y aura plus de riches. Comment on fait? Le retour de la tablette argile. Ouais, mais ça coûte cher l'argile. Il n'y avait que les très riches qui pouvaient écrire sur de l'argile. Ok, Clément, désolé, mais t'es pas le génie qu'on attendait. Hein. Faisons payer les cookies par Elon. Mais même ces 44 milliards de dollars, ça suffirait pas à résoudre le problème. Vous vous rendez pas compte, messieurs, dames. Sans les riches, il n'y aurait pas de pauvres. Oui, bah c'est clair. Si, il y a quand même quelque chose. Si on supprime les riches, on n'a plus de pauvres. Comment la gauche... Non, excusez-moi, c'est sinistre. C'est millième degré, s'il vous plaît. Hein, ne me jetez pas. Ne me jetez pas au pilori. Et tu as tout à fait raison, Super Dupont. Sans les pauvres, il n'y aurait pas de riches. Ça, c'est vrai aussi. Merci, Nicole. Merci à ceux qui font des subs en ce moment. Merci, Nico Clico, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci aussi, D'Enfer, pour ton 2e mois d'abonnement. Merci et merci, Chris, encore une fois, qui a offert 5 abonnements. On est en France, créons un impôt. Un impôt pour payer les sites internet? Tu sens la clameur dans la rue? Tu l'entends, là, la clameur dans la rue? Imaginez, salut Bastille, imaginez, gouvernement, on a une super idée. On vient de vous enlever la redevance, mais on invente une nouvelle redevance. Ça va s'appeler la redevance internet. Et c'est pour que vous puissiez continuer à consulter les sites gratuitement contre le paiement d'un impôt. Je crois que moi-même, je descendrai dans la rue. Hein. Non, laissons la pub, c'est la seule solution. Mais en fait, si je passe autant de temps sur l'article, c'est que c'est hyper intéressant pour comprendre les fondamentaux d'Internet et comment ça fonctionne. Laissez la pub. Le problème, c'est que la pub, sans les cookies, sans un minimum de collecte de données, même un minimum, sans la collecte de données, que sont les cookies traceurs, la pub ne vaut plus grand-chose sur Internet. Parce qu'Internet n'est pas un super média pour la publicité, contrairement à ce que vous pouvez croire. Et on a parfois cette vision un peu caricaturale de la publicité, que c'est des grosses entreprises très riches qui sont là pour payer de la pub à des influenceurs ou à des sites et qu'ils ont qu'à fermer la gueule, leur gueule, parce que déjà ils sont riches, ils ont qu'à donner l'argent aux pauvres créateurs de contenu et ils n'ont pas à demander un retour sur investissement non plus, ouais, faut pas déconner. Mais c'est marrant, ce débat, dès que je le décale en disant « Oui, mais la publicité, c'est peut-être un artisan de Mont-de-Marsan qui s'est acheté pour 1000 euros de bannière publicitaire pour mettre en avant ses gravures sur bois. » Là, tout de suite, il est beaucoup plus sympathique, le mec qui fait de la pub. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les publicités sont des artisans sympathiques de Mont-de-Marsan, mais je vous dis juste que la pub, ce ne sont pas que des gros méchants riches avec des gros cigares, ventripotents et suants de dollars, qui ont de l'argent à jeter, quoi. « Ah, j'ai raté la solution de Clément. Merde, il avait une solution. Clément, je remonte. Le problème, c'est que Google Ads paye moins si on n'accepte pas les cookies. Ce serait donc plutôt à Google de créer un abonnement pour tous les sites. Aïe, aïe, aïe. Pas sûr que ça marche, Clément. En fait, le problème des abonnements... Non, mais ta solution, why not? Mais parlons-en. On dit souvent... Ouais, je sais, il est 8h30. J'ai très mal démarré, Samuel. Mais je termine quand même. On nous dit souvent, ouais, mais des abonnements. Mais là, on est justement en train de vous dire, je vous dis justement que pour éviter une partie de la collecte de données qui sont les traces, les cookies traceurs, il faudrait payer les sites et on a déjà une levée de bouclier. Donc, comment veux-tu que les gens acceptent de payer un abonnement pour consulter les sites Internet que ça soit Google ou pas Google? Personne ne voudra payer un abonnement à Google pour consulter les sites Internet. Merci Yves Luna pour ton 20e mois d'abonnement. Aujourd'hui, les sites qui ont basculé sur des solutions d'abonnement sont extrêmement rares. Ne me rebalancez pas du Mediapart ou du Wall Street Journal. C'est des épiphénomènes dans le monde des sites qui arrivent à tirer plus ou moins leur épingle du jeu avec des abonnements qui ont dû soit licencier beaucoup de monde pour que ça fonctionne, soit pratiquer du journalisme d'une certaine façon, là je pense à Mediapart, d'une façon beaucoup plus militante pour avoir finalement des gens qui sont prêts à payer pour avoir ce journalisme très militant. Mais ça veut dire que si toute la presse, par exemple, passait à des modèles d'abonnement, on va dire tout ce qui est presse plus modérée, plus consensuelle, peut-être plus sage, n'existerait plus. Voilà. Il faudrait que de la presse engagée pour que le système des abonnements puisse éventuellement, et avec très peu de salariés, beaucoup de stagiaires, pour que ça fonctionne. Retour au bénévolat de l'Internet 1.0. Ok, mais j'ai envie de poser une question quand même fondamentale. Tout bénévole soit-on, si on accepte de travailler bénévolement pour Internet et que tout Internet soit bénévole, comment on fait pour manger et se loger? À ce moment-là, on va à la solution de Flonchon. Le capitalisme n'existe plus, les loyers n'existent plus et la nourriture est gratuite. J'exagère un peu, mais... Même Gamekult a dû se faire racheter car les abonnements ne suffisaient pas et pourtant il y a vraiment un public assidu. Mais oui, arrêtez de fantasmer sur les abonnements, je vous jure que ça marche pas, en règle générale. Comment ça se passait les revenus de la pub non ciblée quand on les distribuait dans 20 minutes dans le métro? Ben, tu vois là, Timal, et on va terminer là-dessus, c'est l'exemple type. 20 minutes, et je connais parce que j'ai travaillé pour eux il y a bien bien longtemps, les publicités étaient vraiment pas chères et c'est un journal qui avait très peu d'argent et d'ailleurs la qualité des articles s'en ressentait. Ça serait justement un fameux Internet du pauvre où la publicité pas chère, non ciblée, qui rapporte des centimes, il faut en mettre beaucoup pour que, et on paye pas vraiment les journalistes, on fait écrire plutôt des étudiants journalistes ou des stagiaires. Parce que on va pas se cacher, hein, 20 minutes ne payait pas vraiment des vrais journalistes, hein, je peux vous le garantir. C'était un journal très bas de gamme. Solution radicale, shutdown d'Internet, de rien. Ça marcherait quand même pas, parce que à ce moment-là, il faut shutdown complet de l'information. Et donc, si les abonnements ne marchent pas, pourquoi en proposer au cas par cas? Bah, parce qu'il y a quand même un groupe de gens qui sont prêts à payer des abonnements pour une information de qualité sans publicité. Donc, c'est un marché. Mais ça ne suffit pas, en fait. Pourquoi au passé, 20 minutes est toujours sur le web? 20 minutes a extrapolé de son modèle papier distribué à la sortie des transports en commun et l'a mis sur Internet et effectivement, c'est un site qui a ce qu'on appelle de la bannière bas de gamme, de la bannière publicitaire bas de gamme. Internet se serait développé dans un monde sans pub? C'est une super question, Sony. Ça me donne même l'idée. Ça serait une vidéo ambitieuse parce que je ne pense pas qu'Internet soit l'Internet d'aujourd'hui s'il n'y avait pas de publicité. Je pense que sans la publicité, en tout cas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. C'est clair. Bon, allez, c'était notre article de la demi-heure, voire plus, de 35 minutes. On va torcher les autres articles. Non, on va pas les torcher. On va parler d'Apple. Et c'est un article de Mac Forever. Apple qui dévoile de très nombreuses fonctionnalités à venir. Pour célébrer la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité, Apple présente un certain nombre de ses nouvelles fonctionnalités d'accessibilité à venir sur iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et plus tard cette année. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont dans des situations de handicap, donc ce genre d'article est hyper intéressant. D'une manière générale, l'accessibilité de la technologie, Apple a toujours été assez à la pointe hein, sur les problèmes d'accessibilité. Et là où c'est très intéressant, et bon, on pourrait presque en extrapoler une règle sociale, c'est que Apple, en dépensant autant d'argent et en prenant autant de soins à régler des problèmes d'accessibilité pour les différentes situations d'handicap, fait énormément progresser son interface. Et ça, je trouve ça intéressant. Grâce aux gens en situation d'handicap, on en bénéficie tous. On a toujours cette vision un peu... comment dire, d'une société où les personnes qui ne sont pas en situation d'handicap protègent les gens qui sont en situation d'handicap, et pas toujours bien, ce qui est un peu une vision paternalisme de la gestion de la situation d'handicap. Ce qui est intéressant, dans ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au contraire, en tout cas dans la technologie, le fait même de répondre à des situations d'handicap dans l'utilisation de la technologie bénéficie aux gens qui ne sont pas en situation d'handicap. Donc devient une force, en fait, de la société. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. On rentre dans le détail. Qu'est-ce que Apple va proposer comme nouveauté sur l'accessibilité? La première évolution, ça va être un système qui est appelé Door Detection, qui pourra aider les utilisateurs à localiser une porte une fois arrivés à destination. Elle permettra d'évaluer la distance et de la décrire, y compris si elle est ouverte ou fermée. Dans ce dernier cas, elle pourra même expliquer les modalités pour ouvrir la porte, comme tirer un bouton ou tirer la poignée. Donc en gros, ça sera un scan de porte, donnant des indications, notamment pour les gens qui ont des problèmes de vue, en fait, donnant des indications sur la manière de gérer cette porte. Ça peut paraître con, mais une porte, ça peut être compliqué. Regardez comme certains voyants, enfin, qui ont une vision normale, galèrent sur certaines portes. Imaginez pour la situation pour quelqu'un qui a des problèmes effectivement de vision. Cette fonction sera capable de lire les panneaux et les symboles à proximité, comme les numéros de chambre. Apparemment, détection de porte fonctionnera en combinant les systèmes LIDAR, appareil photo de l'iPhone ou iPad et l'apprentissage automatique. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pour les utilisateurs d'Apple Watch, Cupertino va proposer une fonctionnalité dite mirroring. Il s'agit apparemment de rendre la montre, l'Apple Watch, plus accessible que jamais à des personnes ayant un handicap physique et moteur. Elle permettra de mieux la contrôler grâce à l'iPhone, et ce en utilisant des commandes vocales ou des boutons physiques, des actions sonores, le suivi de la tête. Bref, ce système se basera aussi sur quelques nouveautés, notamment les améliorations au niveau AirPlay ou encore des données via santé. C'est vrai que quelque part, moi, je le sais, pour porter une Apple Watch tous les jours, il y a certaines manips qui ne sont pas simples et demandent un usage correct de ne pas d'être en possession de ces moyens. Et on pourrait se dire, c'est un peu bizarre de contrôler son Apple Watch sur l'iPhone, mais en fait, non, ça fait beaucoup de sens. Pourquoi on n'aurait pas le droit de bénéficier des avantages d'une Apple Watch, même si on n'arrive pas à la gérer à partir de son écran, en fait? Donc, c'est plutôt une approche... même pour moi, il y a des manips sur l'Apple Watch. Je préfère les faire sur mon iPhone que de les faire sur l'Apple Watch elle-même. L'Apple Watch bénéficiera aussi d'une autre fonctionnalité, Quick Action, axée comme son nom l'indique sur des actions rapides, comme répondre ou mettre fin à un appel téléphonique par un double pincement, rejeter une modification, prendre une photo, lire ou mettre en pause des médias ou encore redémarrer, mettre en pause ou reprendre un entraînement. Cette fonction reposera sur une technologie utilisée dans Assistive Touch. On peut imaginer effectivement que des gestes soient pris en considération comme... on en a déjà hein, sur l'Apple Watch, le fait de lever le poignet augmente la luminosité. On peut imaginer qu'on peut déclencher d'autres actions avec certains gestes. Vu qu'on a un gyroscope là-dedans et des capteurs de mouvement, on peut tout à fait envisager... pourquoi je sais pas pourquoi on n'augmenterait pas ou on diminuerait pas le son de son Apple TV en faisant un geste comme ça pour monter le son et puis baisser le son comme ça. Je sais pas si ça serait très pratique. Mais voilà, il y a probablement des domaines de recherche. Proposer des alternatives. J'ai une tendinite et une attelle, j'ai changé mon Apple Watch de main, je suis paumé, j'ose pas imaginer avec un vrai handicap. C'est vrai que nous tous, et ça aide à nous ouvrir les yeux et à avoir plus de compréhension des gens qui sont en situation de handicap, quand vous vous blessez une main, quand vous vous blessez une jambe, quand une partie de votre corps n'a plus ses fonctionnalités, on s'aperçoit à quel point il y a plein de choses qu'on fait naturellement, ne serait-ce que... voilà, moi, je me suis coupé le pouce ce week-end. J'ai dû mettre un pansement. C'est pas une grosse coupure, hein. Mais quand même, il y a plein de trucs que... rien qu'avec une petite coupure sur le pouce, il y a plein de trucs que j'arrivais plus à faire avec mon pouce, notamment en cuisinant. Et je trouve que c'est toujours des moments hyper intéressants quand on se fait un bobo, quand on peut plus bouger un poignet parce qu'on s'est foulé un poignet ou qu'on a un problème, parce que ça vous fait réfléchir quand même à quel point beaucoup de choses peuvent devenir compliquées quand quelque chose ne fonctionne plus. En vrai, on est un peu sarcastique dans le chat par rapport au prix, mais c'est une très bonne chose et ça va permettre plein d'apps de proposer l'accessibilité aussi. Moi, il y a au moins 5 ou 6 fonctions que j'utilise dans mon écosystème Apple qui viennent de l'accessibilité. Par exemple, moi j'ai un truc, quand je clique 3 fois sur le bouton d'allumage de mon iPad, ça réduit la luminosité encore plus basse que la luminosité minimum. Ça, c'est un truc qui vient d'accessibilité, et ça me permet d'avoir une luminosité hyper basse en pleine nuit, quand je veux regarder du contenu sur mon iPad sans réveiller la personne à côté de moi avec de... Parce que même la luminosité minimum d'un iPad 12,9 pouces, ça balance quand même de la lumière. Truc idiot. Ouais, ça m'est arrivé. Quand tu dois te brosser les dents avec ta main gauche. Enfin, ou ta main la plus faible. Oh! Un truc aussi con que se laver les dents devient compliqué. Qui ne s'est jamais dit qu'il n'a pas assez profité de sa capacité à respirer par le nez quand il a le nez bouché à cause d'un petit rhume. Oui, bah oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est possible? J'ai pas suivi la conversation. Que demande Flonflon? Et en vrai, je terminerai là-dessus, Je voulais quand même terminer quand même le truc. On va avoir aussi des sous-titrages automatiques sur les devices Apple, avec notamment un sous-titrage automatique pendant les calls, enfin les appels téléphoniques, pendant les visios. Vous pourrez activer un sous-titrage automatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Apple étendra la prise en charge du voice-over avec 20 nouvelles langues et locales, dont le bulgare, le catalan, l'ukrainien, le vietnamien, etc. En outre, les utilisateurs pourront choisir parmi des dizaines de nouvelles voix optimisées dans toutes les langues et un nouvel outil de vérification de texte pour déceler les problèmes de mise en forme. En vrai, je terminerai là-dessus, c'est vrai que par plein d'aspects, notre société hautement numérisée est vachement pratique pour des trucs. Moi, qui viens d'une génération où il y avait encore beaucoup de choses qui se faisaient pas numériquement, on a gagné beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui deviennent très compliquées, soit quand on vieillit, et quand on vieillit, effectivement, on perd certaines fonctions, hein, c'est un fait. Arrêtez de dire que la vieillesse est un naufrage, parce qu'en même temps, il y a d'autres trucs qui fonctionnent mieux, genre le cerveau, quand on est vieux. Enfin, ça dépend. Mais bref, on acquiert des choses quand on vieillit aussi, mais on perd de la souplesse, on va dire. Et certaines manips, comme juste cliquer sur un bouton de souris, ça devient compliqué. Donc, comment on fait pour faire ses impôts, etc., maintenant que tout est numérique. Donc, la question de l'accessibilité ne concerne pas que les gens qui sont en situation de handicap, mais la question de l'accessibilité nous concerne tous. Vous ne savez pas de quoi votre lendemain est fait. Donc, c'est une question importante. Pourquoi j'entends pas? J'arrive pas à suivre ce que vous dites dans le chat. Allez, je passe à l'article suivant. Let's go. Article suivant de Frandroid. On reste chez Apple. Apple testerait des écrans e-ink à faible consommation pour son iPhone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écran e-ink? C'est l'écran que vous avez sur les liseuses. C'est des écrans. C'est une technologie qui date pas d'hier, hein. C'est une amélioration, on va dire, de la technologie des cristaux liquides qu'il y avait sur les vieilles montres des années 80 et sur les premiers jeux vidéo portables, la Game Boy aussi. Maintenant, on l'a sur nos liseuses. C'est des écrans qui sont très lents, qui sont monochromes, mais qui ont aussi l'avantage de beaucoup moins fatiguer les yeux et d'avoir finalement une lisibilité beaucoup plus naturelle. C'est en train d'évoluer, la couleur arrive tout doucement sur les écrans e-ink. Pour l'instant, on va dire des modes couleurs assez peu évolués. Les problèmes de rafraîchissement de l'image ne permettent pas encore vraiment d'afficher des vidéos sur des écrans e-ink. Donc, l'écran e-ink... Et, ah oui, j'ai oublié de le dire, un avantage énorme des écrans e-ink, c'est que ça consomme très peu d'électricité. Très, très peu d'électricité. Ça, c'est pas mal, notamment pour un smartphone. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que les écrans e-ink aujourd'hui ne permettent pas de lire des vidéos et d'utiliser normalement. Je vais même pas vous parler de jouer à un jeu vidéo. On reviendrait aux vieilles consoles à cristaux liquides avec une nouvelle image toutes les minutes, quoi, en gros. Donc, on se dit, un smartphone avec un écran e-ink, j'en veux pas trop. Oui, mais si on met ça en corrélation, et c'est ce que nous dit l'article, avec le fait qu'Apple serait en train d'explorer les écrans pliables, je pense notamment que le design des Z Flip, le design flippant, le design des Z Flip est celui qui aujourd'hui intéresse le plus les industriels. Et sur un Z Flip, vous avez deux écrans. Vous avez l'écran à l'intérieur, quand on déplie le truc, ou qu'on déplie, mais vous avez également l'écran qui va être sur la partie, quand il est plié. Et cet écran doit transmettre un certain nombre d'infos, doit permettre éventuellement de se cadrer quand on fait de la photo, et doit permettre un certain nombre d'usages du smartphone sans ouvrir le grand écran. Et c'est là où un écran e-ink serait intéressant, puisque pour afficher des notifications, ça serait largement suffisant d'avoir un écran qui, ou pour lire même les mails, ça serait peut-être même confortable. Donc, l'idée, encore une fois, de ces écrans e-ink ne serait pas de remplacer l'écran principal, mais d'avoir l'écran de façade, en fait, qui consommerait très peu d'énergie. Ça serait intéressant. Alors, ça a déjà été fait, je suis d'accord dans le... Merde, j'ai un truc qui est tombé sous la table. Bon, c'est pas grave. J'entends... Oh, nous avons un raid! Attendez, j'affiche mon écran. Boum, boum, boum. Qui nous raid? Qui nous raid? Qui nous raid? J'ai pas eu l'info du raid. Peut-être pas encore. Ah, c'est IM Shin... Bah, en plus, IM Shin Raid qui nous raid. Merci beaucoup, beaucoup pour ton raid. Bienvenue à vous, les gars. J'espère que votre émission s'est très bien passée. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Un raid de raid, c'est exactement ça. Est-ce que votre émission s'est bien passée ce matin? En tout cas, bienvenue sur le mug. On était en train de parler d'Apple, qui ferait des recherches autour des écrans e-ink. Nous sommes, allez, on va dire quasiment à la fin des articles, mais vous inquiétez pas, on a encore une bonne partie de l'émission à faire, et je suis à la bourre, comme d'habitude. Donc, tout va bien. Merci pour tous ces cœurs, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Ah oui, ça y est, le raid s'est affiché. Putain, c'est vachement en retard. Hein. Aïe, 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 aïe. Faudra que j'en parle à Guillaume. Ça va pas du tout si on a les alertes au raid aussi tard. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ça peut être pas mal. Mais attention, on est en train de parler de recherche de laboratoire d'Apple. Ne vous attendez pas à un iPhone pliable avec écran externe en e-ink l'année prochaine. Ça va pas arriver tout de suite. Je pense pas qu'Apple passera un écran externe e-ink avant que la couleur, au moins, on va dire, 256 couleurs, ça pourrait être jouable. Parce qu'avec un système de trame, on arriverait à reproduire déjà pas mal de couleurs qui pourraient suffire pour cadrer sa photo. Parce qu'il y a deux choses importantes avec cet écran externe d'un téléphone pliable. C'est le cadrage en photo et lire des notifications et éventuellement lire, par exemple, ses mails. Les notifications, je pense qu'on pourrait s'en sortir avec 16 couleurs. Apple ne permettrait pas une lecture des notifications en noir et blanc, ça c'est sûr. Faut-il absolument laisser un écran externe pour ne pas avoir à l'ouvrir à chaque utilisation? Oui, honnêtement, pour avoir un Z Flip 3, le principal intérêt de ce type de smartphone, c'est que du coup, tes usages d'un smartphone changent. Il y a plein de choses, tu n'ouvres plus ton smartphone. Consulter des notifications, voire lire une info rapide, un SMS, t'as plus besoin d'ouvrir et de te mettre à scroller de partout sur ton smartphone. Et c'est ça qui est intéressant, au-delà du fait qu'il se plie et de la petitesse de l'objet, c'est que ça change tes usages d'un smartphone, en fait. Non, ça peut suffire. Si on arrive à avoir, par exemple, du 12 images secondes Panda sur un écran e-ink, ça suffirait pour du cadrage photo. 12 images secondes, ça peut suffire pour du cadrage photo. Parce que tu l'ouvres dans la vraie vie, ton flip. Bah, en tout cas, toi, Olek, ta gueule, tu l'ouvres. Hein. C'est vrai, je vous l'accorde. Mon Z Flip 3 étant mon téléphone secondaire et mon téléphone normalement pour mes usages privés, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais c'est la résultante que je n'ai pas beaucoup de vie privée et pas beaucoup de temps, en fait. Ah, ça tire à balles réelles. Ça dit les termes, là. Merci, Old Grimoire, pour ton Prime, 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Est-ce qu'Olek pourrait être un smartphone à clapet pour qu'il ferme son clapet? Les écrans in-ring dans les montres, ça serait intéressant aussi. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bah, parce que, n'oublions pas, l'écran in-ring, énorme avantage, ça consomme très peu. Très, très peu. Réglez ça en privé, messieurs. T'as raison. Derrière la cathédrale, à 6 heures, vous avez le choix des armes. Bon, 6 heures, ça fait tôt, hein. Puis j'ai le mug après. Le mec est tellement sûr de gagner. Nous ferons un duel avec des téléphones pliables. Terrible. Merci Rémi Néo pour ton 15e mois d'abonnement. Je termine sur les articles d'Apple. Un article où on apprend qu'effectivement, et ça c'est toujours un article de Mac Forever, où on apprend que la conception du casque AR-VR d'Apple ne serait pas un long fleuve tranquille. C'est une journaliste de The Information, Wayne Ma, qui a publié un article détaillé au sein duquel il évoque les épreuves rencontrées par l'équipe chapeautée par Mike Rockwell, ancien dirigeant de Dolby. C'est l'équipe qui travaille sur le casque AR-VR d'Apple et a commencé par les difficultés à obtenir de l'aide par les autres divisions de Cupertino. En gros, ce fameux casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée serait un peu mal aimé en interne chez Apple. C'est ce que nous dit l'article en tout cas. Les premiers prototypes qui étaient basés sur les HTC Vive et qui tournaient sous Windows ont été montrés dès 2016 en interne chez Apple. Et le conseil d'administration d'Apple ne l'a pas vu d'un très bon œil. L'article nous rapporte que Johnny Ive, par exemple, estimait que ces appareils, ces visières de VR, coupaient les utilisateurs du monde extérieur et qu'ils manquaient d'utilisation pratique. En gros, une réflexion qu'on a un petit peu tous sur les casques de VR, ça sert pas à grand chose. On se prend les murs et ça nous enferme sur nous-mêmes. Voilà. Réaction de boomer ou pas, on verra. L'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, ces réflexions en 2016 d'Apple ont conduit la recherche et développement d'Apple à plus partir sur a priori, une visière qui ferait à la fois de la VR et de l'AR. Un truc comme ça. Alors, je vous rappelle la différence entre VR et AR. AR, réalité augmentée. En gros, c'est des informations tête haute. C'est des informations qui vont venir se surimprimer à ce que vous voyez. La VR, la visière est fermée, entre guillemets, ou ne laisse pas passer l'image extérieure et va proposer à vos yeux, en fait, la vision d'un monde entièrement calculé. Voilà, c'est ça la différence. Après le pliant, l'autre innovation dont personne ne voit l'intérêt, l'AR. On verra. Faut rester ouvert. L'équipe s'est également sentie à l'écart, œuvrant dans des bureaux de Sunny Valley, loin de l'Apple Park. Hein, ils sont pas dans les beaux bureaux d'Apple. On les a un peu mis à l'écart en fait du reste d'Apple et ne recevaient que rarement des visites de Tim Cook. Pourtant, Tim Cook a bien parlé de visière à AR/VR dans des keynotes. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un problème chez Apple où ils sont pas très sûrs? Ils n'ont pas l'air d'aimer ce produit. Et ils rapportent aussi cet article, par exemple, en 2018, l'équipe a demandé des caméras pour mettre sur la visière. Et donc, ils ont dit à l'équipe iPhone, est-ce que vous pourriez nous filer les caméras qui sont sur l'iPhone? Et ils se sont vus répondre, ils voulaient des caméras plus réactives, ils se sont vus répondre que le projet n'était pas prioritaire et qu'il faudrait attendre que l'iPhone 10S soit lancé avant de pouvoir bénéficier de l'expérience de la division. En gros, les mecs de la division iPhone leur ont dit « Vous aurez pas nos bonnes caméras avant qu'on les ait sorties, quoi, les gars. » Les défis techniques ont également été importants Regardons d'autant plus la présentation officielle d'un premier produit dont l'intégration des batteries offrait une autonomie suffisante, de nombreuses caméras et de nombreux écrans, le tout impliquant des soucis de surchauffe. Donc vous imaginez une visière qui surchauffe sur vos yeux. Parce que c'est con à dire, hein, mais un smartphone, quand ça surchauffe dans les mains, ça peut être pénible. Mais imaginez, mais c'est pas ultra grave. Imaginez cette même chaleur si vous avez un truc comme ça. Et que vous avez la chaleur qui vous irradie le visage et les yeux, qui assèche les yeux. Ça va pas du tout. Donc les problèmes techniques sont pas négligés, quoi. A priori, les prototypes qui sont en préparation pour une présentation au premier trimestre 2023, le M1 est venu apporter pas mal de solutions, notamment au problème de chauffe. Il serait équipé d'une puce M1 Pro, d'un écran micro LED haute définition et pas moins de 15 modules optiques. Donc 15 caméras pour, a priori, je pense, repérer les choses. Bref, on verra. Du Wi-Fi 6E ainsi que son propre App Store. Cette débauche de technologie, des bruits évoqueraient que cette visière aurait plusieurs années d'avance sur tout ce qui se fait en termes de visière, d'AR/VR, pourrait au final impliquer un tarif très salé de plusieurs milliers de dollars. Donc, a priori, en tout cas, une première génération de produits hyper cher. Je pense raisonnablement qu'il faut pas envisager la première visière Apple. À mon avis, je la vois pas en dessous de 2000, 3000 euros. Donc, reste à savoir effectivement si les efforts d'Apple permettront de proposer un produit vraiment révolutionnaire et des usages assez intéressants pour soulever l'intérêt des foules. Alors déjà, si le premier produit il est à 2-3 000, c'est pas les foules. Ça va être des foules de riches, déjà, qui vont s'y intéresser. En fait, le problème n'est même pas technologique et vous le savez tous. Le problème, c'est les usages. Si Apple n'arrive pas avec des usages où on se dit « Ah, mais en fait, j'aimerais bien avoir ça », et aujourd'hui, c'est difficile à envisager parce qu'aujourd'hui, les usages d'une visière sont relativement limités. Hein, le métaverse. Franchement, moi, j'ai dû. Même moi, hein, j'essaye de m'enthousiasmer pour les notions de métaverse. D'abord, pour moi, c'est pas nouveau. Les jeux vidéo, pour l'instant, il n'y a pas eu encore un jeu vidéo qui me fasse dire « Mais putain, je veux y jouer en VR, absolument !» J'ai joué en VR, je trouve ça cool. Mais pas au point de mettre une visière VR à chaque fois que je joue, quoi. Confinement, l'intérêt de la visière, ça se discute. Je crois plus, moi, à des lunettes relativement légères avec des informations en AR. Ça, j'y vois l'utilité au quotidien pour moi, ne serait-ce que d'afficher tête haute des informations de direction quand je me balade dans Paris, ça me serait hyper utile en fait. Parce que le fait de voir, ah merde, c'est à droite, c'est à gauche, là si je peux avoir des flèches qui m'indiquent droite-gauche quand je lui ai demandé de tracer un parcours, rien que cet usage-là, je les achète, les lunettes. Si elles sont pas trop moches, que je peux les adapter à ma vue, qu'elles n'ont... J'ai pas besoin d'avoir des caméras embarquées sur mes lunettes, parce que ça, je trouve que c'est quand même problématique, mais voilà. L'AR, on voit ce que ça a donné avec les Google Glass. Est-ce qu'elles étaient pas un petit peu trop en avance sur leur temps? Mais je me vois pas dans la rue mettre une visière. Si leur visière a des possibilités d'AR... Je me vois pas l'utiliser dans la rue, cette visière. Après, faut jamais dire jamais. C'est peut-être une mode de demain, et peut-être qu'on portera une partie des gens porteront des visières dans la rue, parce que ça sera le truc, et il y aura une vraie utilité, et les gens y trouveront une utilité. Soyons pas trop sûrs quand même, Paul Position, que tout ça n'est qu'une arlésienne. Et en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas été convaincu pour l'instant qu'on peut pas être convaincu plus tard. Mais tout passera par les usages. On s'en fout, en fait, de la techno. Je vous garantis qu'aujourd'hui, vous êtes sceptique, mais si demain, ils arrivent à trouver une app qui est carrément mieux avec une visière, ou une expérience que vous pourriez vivre, que vous allez trouver absolument géniale et tout le monde veut s'y mettre. Alors, bien évidemment, si la visière est à 2 000-3 000 euros, tout le monde va pas l'acheter, mais imaginons dans 2-3 générations quand les visières, imaginons des visières à 300-500 euros et que vous avez une expérience qui vous paraît aussi indispensable que certains usages que vous avez de votre smartphone, ça peut cartonner. Donc à voir. Moi, le truc, c'est comme je vous l'ai dit, je crois quand même plus à AR et VR splittés. Je crois pas trop à un produit qui fusionnerait les deux, en fait. À voir. Dernier article, je vous le fais rapide, mais parce que sur le MugNowTech, nous sommes aussi des scientifiques hautement qualifiés. Hein. Vous le savez, si vous êtes des vieux de la vieille et quand vous m'entendez parler d'un article scientifique, on sent quand même le mec qui a un vrai background scientifique. Hein. Je rigole, bien sûr. Mais je vais vous parler quand même des scientifiques. Aujourd'hui, c'est un article de Numérique. Les scientifiques alimentent un processeur grâce à des algues. Et ça, ça m'a interloqué parce que souvent, vous m'entendez dire la blague suivante. Vivement les batteries en méduse écrasée ou qui fonctionneraient avec des algues. Parce que je sais que des chercheurs en laboratoire, aujourd'hui, travaillent sur de l'énergie bio à partir de cellules vivantes qui pourraient produire de l'énergie. Donc c'est pas complètement déconnant quand je vous dis qu'une batterie en méduse écrasée pourrait exister un jour. Eh ben on est en plein dedans. La production d'énergie est l'un des enjeux majeurs de notre époque. Bien que la seule électricité ne soit pas un problème en soi, limiter son impact sur notre environnement est un défi tout autre. Dans ce contexte, le biophotovoltaïque connaît un certain essor. Le principe est de produire une technologie grâce à de la photosynthèse réalisée par un micro-organisme comme une algue. Je vous montre la tronche d'une batterie à l'algue. Ça ressemblerait à ça. Une batterie à l'algue, pour l'instant. C'est pas énorme, hein, regardez la taille des vis. C'est pas énorme. Ça se mange, j'irai pas manger les algues là-dedans. Mais en principe, oui, c'est des cellules, enfin c'est de la biotech hein, en fait. Pour cette expérience, des chercheurs de l'université de Cambridge ont enfermé des algues bleues, des cyanobactéries, dans une capsule de la taille d'une pile LR06, puis l'ont exposé plusieurs mois à la lumière du soleil, sans autre source de nourriture que celle pour les algues. Donc il fallait mettre un petit peu de nourriture pour les algues. Grâce à l'énergie produite... Alors, grâce à ça, l'énergie produite est très modeste, 0,3 microwatt-heure. Ils ont pu alimenter quand même en continu une puce ARM Cortex M0+, pendant 6 mois, et lui faire réaliser des opérations simples. Au-delà de l'énergie produite, c'est la régularité avec laquelle elle était produite qui a surpris les chercheurs. En effet, grâce à l'énergie accumulée pendant une journée d'exposition au soleil, la batterie fonctionnait même la nuit. Bien sûr, le concept est encore loin d'une étape de commercialisation quelconque, le rendement étant extrêmement faible. 0,25% de l'énergie solaire captée et transformée en électricité. Les chercheurs sont en revanche séduits par les coûts modérés d'une telle technologie et surtout sur son impact quasi nul sur l'environnement. Vous savez, les panneaux solaires, par exemple, ça pollue beaucoup à produire. Là, a priori, faire des piles biophotovoltaïque aurait un impact quasiment nul sur l'environnement. On sait que les algues, c'est plus un problème d'environnement, la prolifération des algues, que de... Voilà, les algues ne sont pas une espèce... Enfin, si, certaines algues sont une espèce de voie de disparition, mais une algue, on peut en produire beaucoup, beaucoup. Contrairement à des batteries ou des solutions de production classiques telles que des panneaux photovoltaïques, l'utilisation des algues est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Pour ceux qui imaginaient recourir aux algues pour leur futur RTX 4090 ou pour leur prochain iPhone, il faudrait avoir recours, c'est là où il faut, en fait, il vous faudrait 2 milliards, oui monsieur, 2 milliards de piles comme ça pour que un ordinateur fonctionne, actuel. Donc on n'y est pas encore, hein, avec les piles à algues dans toutes nos technos. Mais par contre, pour des objets, des puces alimentées par des algues pour répondre aux besoins des petits objets connectés qui ne cessent de se multiplier un peu partout dans la maison et ailleurs, là, ça pourrait être envisageable. Des petits objets fixes qui ont besoin d'un peu d'énergie et pas un processeur ultra puissant. Imaginez, on pourra peut-être alimenter un certain nombre de choses dans la maison rien qu'avec un aquarium. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Donc, ne voyez pas non plus que vous allez bientôt avoir des algues et qu'il faudra nourrir, en versant de la poudre dans votre iPhone, faudra nourrir vos algues. On n'y est pas et a priori, c'est pas ça que les scientifiques cherchent. Le cours de l'algue va grimper grâce à ça. Peut-être que dans le futur, on aura des fermes d'algues au lieu d'avoir des fermes de Bitcoin. Ça a pué, hein. Un aquarium pour alimenter tes ampoules connectées dans le salon. Eh, pourquoi pas? Alimenter ton sèche-cheveux avec la moisissure des joints de la salle de bain, c'est dégueulasse, mais... Oui, ça reste très vague, très joli, pole position, ce jeu de mots. Mais c'est intéressant quand même. Moi, je trouve ça intéressant. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. On va parler des jeux vidéo qui rendraient intelligents. Sujet hautement polémique. Mais avant ça, je vous rappelle que nous sommes en pleine opération piquer de l'argent à Bezos pour le mettre dans la poche de Naotech. Vous pouvez le faire si vous avez un abonnement Prime chez Amazon. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Vous pouvez accorder une partie de ce Prime tous les mois à votre créateur de contenu préféré. Et qui est votre créateur de contenu préféré? Ne répondez pas dans le chat parce que je vous connais. Votre créateur de contenu préféré, c'est nous, bien évidemment. Hein? On est d'accord. Donc, c'est le moment d'ouvrir votre navigateur. Et c'est important de le faire dans un navigateur. Vous risquez moins de problèmes, surtout si vous êtes sur un iPhone. Donc, ouvrez Safari, par exemple, sur votre iPhone. Vous allez sur votre compte Twitch. Vous ouvrez Twitch dans votre navigateur, vous allez sur votre compte, et là, vous abonnez à Naotech Team, et là, vous avez une case à cocher. Je m'abonne grâce à mon Prime, à mon Amazon Prime. Et du coup, l'abonnement vous coûtera rien. Mais nous, il nous rapportera quand même de l'argent. Et regardez ce que fait Yunshiro et ce que vient de faire Madrassi. On devrait tous le faire. Enfin, vous devriez tous le faire. Moi, je le fais aussi. C'est Jean Massier qui a eu mon Prime ce mois-ci. Donc, moi aussi, j'attribue mon Prime. Parce que c'est con, sinon c'est de l'argent qui se perd dans les poches de Bezos. Alors, il faut le faire tous les mois. C'est la contrainte. Parce que Bezos n'aime pas beaucoup qu'on lui pique de l'argent dans sa poche. Donc, il a mis comme contrainte que tous les mois, il faut y penser. Donc, je vous y ferai penser tout le temps. Il faut le renouveler manuellement, ouais. Alors, si tu vois toujours... François, si tu n'y es pas arrivé, c'est que tu n'as peut-être pas connecté ton compte Twitch avec ton compte Amazon. C'est important que tu relies les deux. Sinon, comment veux-tu qu'ils sachent que tu es abonné Prime? C'est pas écrit sur ton front. Enfin, je te le souhaite pas. Parce que si tu as un tatouage « Je suis abonné... » Amazon Prime sur ton front, c'est pas génial, quoi. Je l'ai fait pour Samuel Etienne. Je change, en fait, moi, de temps en temps. Merci, Padirius. Un tatouage Naotech, ça passe. Très honnêtement, non. Si vous m'abordez dans la rue et que vous êtes tatoué Naotech sur le front, je resterai poli, hein. Mais je ferai deux pas en arrière. J'y comprends rien, les commandes sur le net, Annie Blondie. Écoute, on a mis une notice assez explicative. Là, Samuel vient de le mettre dans le chat. N'hésite pas, alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai jamais trouvé le Discord. N'hésite pas à demander de l'aide sur le Discord. C'est pas une manip très compliquée, mais déjà, le premier truc, c'est essaye de le faire sur ton navigateur. Donc là, Samuel vient de vous remettre le guide pour accéder au salon contributeur, tous les guides. Mais attention, hein, je ne suis pas du tout en train de me moquer de toi. Je sais à quel point toutes ces manips peuvent être compliquées et ne nous simplifient pas la vie. Hein. Quand tu ouvres Twitch et que tu vois une pub, c'est le jour du renouvellement. Oui, n'oubliez pas qu'effectivement, en vous abonnant à la chaîne, vous n'aurez pas de pub. Et alors, je tease quelque chose, autant que vous vous fâchiez dès maintenant. Vous savez que le mug va s'arrêter en juillet-août, c'est la pause estivale du mug. Nous continuerons à faire des lives, on a pas mal de choses à rôder, on va dire, en juillet-août. Donc, vous inquiétez pas, il y aura encore des lives. Juste plus des lives tous les matins pendant les deux mois d'été. Une de nos lignes de réflexion est évidemment, comme énormément d'autres streamers, de rendre nos replays conditionnés par les abonnements. C'est-à-dire que les replays de nos lives ne serait accessible qu'aux gens qui ont un abonnement. Je sais, alors, on mettra quand même des replays gratuitement à disposition sur YouTube, mais probablement décalés. Mais il y aura toujours une manière quand même d'avoir le mug gratuitement, mais peut-être pas le mug du matin une heure après gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je sais, ça plaira pas à tout le monde, mais comprenez aussi que tout ça, c'est du travail pour nous. On veut que l'abonnement soit plus incitatif, en fait, sur Twitch. C'est nul comme underscore. C'est comme tout le monde, hein. En vrai, la plupart des streamers, on est presque une exception, on va dire, à notre taille, qu'on offre une émission dont le replay est complètement gratos. Non, mais on sera pas en vacances, hein, François, du 45, hein, en juillet-août. Bien au contraire, on a beaucoup, beaucoup de travail en juillet-août. Simplement, on met en pause le mug, parce que d'abord, vous êtes quand même moins en été à le regarder en juillet-août. Nous, ça nous permet de nous régénérer. Faire cette émission tous les matins, se lever à 6h du matin pour la préparer, c'est 3h de travail par jour. Ça vous explique aussi qu'on est un peu cramé quand même fin juin. Parce qu'on a tenu, toute l'année, qu'on a besoin de se régénérer, et aussi que c'est un vrai travail, ça nous demande beaucoup d'argent, et qu'il faut payer les gens qui font ce travail-là. Et donc, effectivement, les replays payants assortis aux abonnements. Mais n'oubliez pas, justement, si vous avez un Prime, du coup, vous serez abonné. Et un des trucs effet de bord, quand même, c'est que le fait que vous n'ayez, par exemple, plus accès aux replays, est un bon trigger pour vous rappeler de renouveler votre Prime. Alors, c'est pas encore acté. Oui, mais Étoile ne fait pas un contenu. Alors, il a un contenu régulier, mais il n'a pas une émission. Enfin, bon, on pourra en discuter. Mais on se reposera pas. Dès qu'on dit que le truc va être en jachère. Une terre en jachère ne se repose pas. Enfin, on part pas en vacances, on va pas se reposer en juillet-août. Ça, c'est clair. Alors, Snafon, c'est un des problèmes qu'on a. Comment on fait pour les gens qui contribuent sur Patreon? On n'a pour l'instant pas la solution. C'est compliqué pour nous. On ne peut pas automatiser un truc faisant que, genre, on offre un abonnement Twitter à ceux qui contribuent sur Patreon. C'est compliqué. Donc, on ne sait pas. On n'a pas encore la solution. Il faut qu'on y réfléchisse. Comprenez qu'on comprend votre problème, que vous aimez bien avoir ce contenu gratuitement, mais que nous, économiquement, c'est une perte potentielle. Et comme il y a ce programme Prime, et quoi que vous en disiez, je sais très bien que tout le monde d'entre vous n'a pas Prime, mais vous êtes beaucoup à avoir Amazon Prime. Voilà. Les podcasts ne seront pas payants. Là aussi, avant de lever vos boucliers, de hurler « Mon Dieu !» Déjà, le replay sera disponible gratuitement sur YouTube, mais probablement, par exemple, le replay sera le soir pour que les gens qui veulent un replay plus frais dans la journée en profitent avec leur abonnement. Je sais pas, on n'a pas encore la formule. Deuxièmement, les podcasts n'ont jamais été payants, ne seront pas payants, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Non, on ne fera pas un sondage sur ce... Pour qui à Prime, on a un peu les chiffres, hein, PEMF, on n'a pas besoin d'un sondage. Et on serait les seuls à faire ça, mais comme le dit Choupou, quasiment tous les streamers ont cette formule, et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien. Donc, je veux bien penser à vous, mais de temps en temps, pensez à nous. Je dis ça sans être moralisateur, mais en vrai, c'est vrai, quoi. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Oui, mais on comprend aussi, Foxy, on sait aussi, mais encore une fois, le replay sera disponible gratuitement. Simplement, il faudra patienter quelques heures pour l'avoir. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous allez être privé de replay. On vous dit juste que le replay sera disponible plus tard gratuitement. Donc, c'est pas mal, quoi, quand même. Non, ce n'est pas qu'un problème technique, MR Cappuccino. On va passer à la tartine, hein, parce que là, il est 9h22, mais je réponds quand même. C'est pas qu'un problème technique. C'est qu'aujourd'hui, ça serait un problème comptable et financier. Ça voudrait dire que si, automatiquement, on donnait un abonnement Twitch à toute personne qui était contributeur sur Patreon, ça voudrait dire que nous-mêmes, on devrait payer des abonnements Twitch liés à des gens qui nous donnent sur Patreon. D'un point de vue comptable, ça serait extrêmement difficile à gérer. Ce n'est pas qu'un problème technique, voilà. C'est un problème de paiement. Ça veut dire, c'est nous qui offririons aux gens qui sont sur Patreon des abonnements Prime. Très compliqué à mettre en place. Oui, le replay serait sur YouTube gratuitement, ouais. C'est à cause de la guerre en Ukraine. Non, mais c'est simplement que nous aussi, on cherche des business models viables. On a des gens à payer. Moi, j'aimerais bien garder les emplois. J'ai pas envie de virer les gens. Et oui, bah vous le voyez bien, les situations économiques sont compliquées aujourd'hui. Pour vous, comme pour nous, comme pour la plupart des créateurs de contenu. Ne pensez pas que les créateurs de contenu sont des milliardaires. Il y a des milliardaires, mais enfin, ils sont pas beaucoup quand même. Enfin, des millionnaires déjà. Voilà, c'est pas un business simple hein, en termes d'argent. Mais encore une fois, ça va pas changer beaucoup de choses dans l'absolu. Simplement, ceux qui avaient l'habitude d'avoir le replay gratuit sur Twitch, bah, ils auront le replay gratuit sur YouTube avec quelques heures de décalage. Ça va, on n'est pas en train de vous couper les deux bras non plus. Donc, ça va pas changer grand-chose. C'est pas la mort. Vous êtes des monstres. Je comprends pas pourquoi les gens râlent. C'est cool ce que vous faites. Écoute, c'est après, quoi qu'on change, il y aura toujours des gens qui râlent. Là, en plus, on fait ça et en gros, notre contenu est un tout petit peu moins gratuit qu'avant. On sait qu'il va y avoir des... En fait, je pense qu'il y a des gens qui râlent par principe aussi. Vous êtes horrible! Merci Yves pour ton deuxième mois d'abonnement. Bon, je viens de passer 20 minutes sur ce problème, mais bon. Écoutez, honnêtement, je préfère vous. Déjà, attendez, on n'a pas pris de décision. Si les choses se font, ça sera probablement automne prochain. Pour l'instant, profitez des replays gratuits. Voilà. Si vous avez un Amazon Prime, pensez à le connecter à Nowtech. Ça peut être une bonne idée. Point. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Les mêmes qui vont sauter sur les précos d'iPhone en septembre, par contre, oui. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais pole position. Je t'explique juste un truc et je terminerai là-dessus. C'est en ça que je trouve ça contre-productif. Le streamer, par son blocage, peut-être passer à côté d'un futur abonné. En vrai, dans l'absolu, économiquement, et je pense que tu peux le comprendre, un abonné n'a in fine de l'intérêt que si quelque part, il peut te rapporter de l'argent. Tu vois? Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Après, n'oubliez pas un truc fondamental dans ce que j'ai dit. Le live en lui-même, il est gratos. D'être là à 8h du matin jusqu'à 9h30 du matin, ça, c'est pas conditionné par un abonnement du tout. Donc, notre émission, fondamentalement, reste gratuite. Elle aura un replay gratuit quelques heures après. Donc, est-ce que ça va vraiment nous priver de nouveaux abonnés? Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Oui, les petits résumés qu'on faisait sur la chaîne YouTube, ça nous demandait à peu près une heure de travail. Ça paraît rien, mais ça demandait une heure de travail supplémentaire. Et pour l'instant, les vues que ça occasionnait n'étaient pas à la hauteur du temps qu'on investissait pour les faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on refera pas des highlights, mais pour l'instant, la formule ne fonctionne pas pour nous, en fait. Ah non, on bloquera pas le chat, hein. Non, 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 non. Pourquoi vous... Ah oui, non, le chat réservé aux abonnés. Non. On le fera peut-être éventuellement sur des gros events, type Apple Keynote, où là, il y a trop de monde qui parle, pour que ça puisse être lisible pour le présentateur. Mais le mug, si un jour on a un problème de lisibilité... C'est vrai que Samuel Etienne, parfois, je me demande comment il fait pour lire son chat, parce que ça défile vite. Mais non, on ne conditionnera pas l'usage du chat au fait d'être abonné. Hein. Ça, c'est clair. 9h27, la tartine pas enclenchée. Vous savez quoi? On va pas faire de tartine. Voilà. Privé de tartine, vous êtes privé de tartine. Et c'est de ma faute. Donc, jetez-moi des cailloux. On va faire un cornfac et je vais continuer à répondre à vos questions. Je pense qu'on est plus parti là-dessus. C'est vrai que j'ai enclenché moi-même le débat. Avant qu'on passe au cornfac, parce que certains vont peut-être nous quitter à 9h30, j'ai des informations importantes à vous donner. Quoi? C'était pas déjà une information importante, là? J'ai mon petit cœur qui bat. Non, on a des trucs cool. Déjà, aujourd'hui, à 17h, nos amis de chez Shadow vont faire des annonces. Nous, normalement, si on y arrive, à 17h30, on sort une vidéo sur la chaîne principale vous résumant les annonces Shadow. Donc, j'ai pas le droit de vous en dire plus pour l'instant, mais réglez vos horloges si vous êtes intéressé par Shadow. Si vous avez été déçu aussi par Shadow, que vous avez fait partie des problèmes de ceux qui ont pris des Infinite et qui les ont jamais eus, les fameux un an d'attente pour avoir un Shadow, je vous conseille quand même de regarder ce qui va se passer à 17h. Alors ça sera sur la chaîne YouTube de Shadow. Et ensuite, de venir chez nous, parce que c'est cool quand même, à 17h30, parce qu'on va faire, on est en train de faire une vidéo qui va vous résumer un petit peu tout ça, quoi. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par Shadow, ou même vous demandez ce que c'est que Shadow, n'oubliez pas que sur la chaîne principale, on a fait des tonnes de vidéos pour vous expliquer ce qu'était le Shadow PC, parce que nous, on est des fans. Voilà, ce que j'ai à vous annoncer demain, ça sera Guillaume. Hein, vous l'avez eu mardi, vous l'aurez jeudi. Deux fois plus de Guillaume cette semaine. Également, pour ceux qui sont pas au courant, et c'est vrai que la vidéo s'est fait massacrer encore une fois par l'algorithme de YouTube, comme quoi hein, les chats, ce n'est plus aussi bunkable qu'avant. Non, en vrai, on savait que c'est un sujet plus étroit, les aspirateurs robots. Mais si ça vous intéresse, les aspirateurs robots, on a sorti une vidéo en début de semaine sur la chaîne qui compare un chat et un aspirateur robot. M'en demandez pas plus, allez voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et là, je vais pas vous le cacher, du mal à se faire voir cette vidéo. Elle n'est plus dans les. En fait, elle n'est pas proposée en recommandation à beaucoup de monde. Donc, si dans votre entourage, il y a des gens qui se posent des questions sur la pertinence de prendre un robot aspirateur, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et la troisième info, merci Grol de me le rappeler, nous avons un Twitch achat aujourd'hui. Nous avons un Twitch achat qui sera un peu orienté économie circulaire, écologie. Nous avons même un partenaire dans le Twitch achat. Donc il y aura un Twitch achat à 17h30. Donc en même temps, il y aura une vidéo sur la chaîne qui va sortir, principale, mais vous pourrez la regarder après le Twitch achat, aucun problème. Et on a aussi un Twitch achat à 17h30. D'ailleurs, on va même parler du Shadow dans le Twitch achat. Voilà, beaucoup de choses aujourd'hui. Autour de... Voilà, 17h chez Shadow, 17h30 ici sur Twitch, le Twitch achat spécial économie circulaire, écologie. Et en même temps, sur la chaîne principale, va sortir une vidéo sur les annonces Shadow. Ça en fait des choses, hein. Ça a tranché. Samuel, 17h32. Non, je vais faire quand même un petit camp de fac jusqu'à 9h40. Mais ça va être un petit camp de fac. Je lance tout de suite le camp de fac. Hop, je lis deux, trois petits trucs que vous avez écrits avant. Je confirme, alors que je suis abonné à la chaîne YouTube. J'ai activé les notifs, je suis complètement passé à côté. Non, mais on le sait. Actuellement, il faut comprendre que l'algorithme YouTube n'en a plus rien à faire de vos abonnements, ni même de vos cloches, et qu'il faut aller chercher le contenu manuellement. Donc, je sais pas quoi vous dire d'autre. Nous, on essaye de vous informer par les réseaux sociaux et tout ça, qu'il y a des vidéos qui sortent. YouTube a décidé de ne plus vous proposer nos vidéos quand elles sortent à pas mal d'entre vous. Je le sais parce que dans les commentaires même de la vidéo, il y en a plein qui disent « Waouh, heureusement que je suis tombé sur cette vidéo parce que je l'ai pas eu en recommandation. » Donc, voilà, si vous aimez quand même notre contenu, il faut savoir que vous avez peut-être l'impression qu'on fait plus de vidéos en ce moment. Mais si, on en fait même plus qu'avant des vidéos. Mais YouTube ne vous propose plus nos vidéos. Pourquoi ils font ça? Simplement parce que vous regardez d'autres vidéos, peut-être un autre type de contenu, et que YouTube pense, l'algorithme de YouTube pense qu'en fait vous préférez regarder les autres vidéos que les vidéos Nowtech, parce que nos vidéos sont plus rares peut-être. On en fait deux par semaine, les bonnes semaines, une par semaine. Si vous regardez un autre type de contenu plus facile, produit plus régulièrement ou à haute audience du contenu, et c'est pas du tout du mépris, hein, mais un contenu plus TF1, plus rigolo, plus fit and fun. YouTube se dit qu'il va plutôt vous recommander ce contenu-là parce que vous avez tendance à plus facilement cliquer dessus. Nous, c'est normal, notre contenu, il est un peu moins fit and fun, voire pas du tout fit and fun. Et c'est normal aussi que de temps en temps, vous choisissiez de ne pas regarder nos vidéos parce que le sujet vous concerne pas. C'est là où, par exemple, un humoriste va avoir de l'avantage sur nous. C'est que nous, bah, on traite de sujets, d'actualité, de produits. Il y a des produits qui vous intéressent pas. Un mec qui fait de l'humour et que vous aimez bien, vous allez cliquer toujours sur sa vidéo. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'algorithme de YouTube va avoir tendance à favoriser ceux sur qui vous cliquez toujours. Non, en vrai, le fait d'avoir mis un chat dans la dernière vidéo, c'était pas pour augmenter les vues. Et en vrai, on sait très bien, parce qu'on l'observe depuis 2 mois, hein, là, l'algorithme de YouTube, c'est compliqué pour nous. Donc c'était presque effectivement un pied de nez de dire, même si on met un chat dans la vidéo, elle va pas cartonner la vidéo. Certains aussi ont un souci sur le site de Greeny pour aller voir les produits. Ah! Alors ça, il faut que tu contactes les gens de Greeny, hein. Nous, on les connaît très peu. Pour l'instant, on ne fait pas d'OP du tout avec eux. Essaye de contacter les gens de Greeny, ouais. Mais allez voir cette vidéo si le sujet des robots aspirateurs vous intéresse. Bien sûr que je présente un produit, c'est une vidéo sponsor. Mais au-delà de ça, je pose quand même la question sur la pertinence quand on a des animaux d'avoir un robot aspirateur. Non, je ne suis pas le SAV de l'entreprise Greeny, ouais. Donc voilà, une autre manière de soutenir la chaîne. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de subber ou de primer la chaîne sur Twitch. Une manière pas chère du tout, mais qui nous aiderait beaucoup sur YouTube, c'est que bah, vous regardiez nos vidéos, que vous alliez les chercher, que de temps en temps, au lieu sur YouTube, que vous ayez uniquement sur votre onglet des recommandations, que vous ayez un petit peu sur l'onglet de vos abonnements. Que vous voyez nos vidéos, en fait. Ça, effectivement, ça aide. Mais tu vois, Nestor, sous le je sais que c'est du second degré, est-ce que tu penses que ça marcherait mieux en se déguisant en chat? Il faut tester, je pense. En fait, justement, nous, on constate que le contenu de YouTube devient un contenu très TF1. Je me déguise, je chante, j'ai une vachette qui me court derrière. Et on sait que ce contenu marcherait. Et tu vois, tu crois plaisanter, mais je sais très bien que si j'avais mis un déguisement de chat pour présenter un aspirateur robot, ah, trop lol, le vieux qui se déguise en chat pour présenter un aspirateur. En gros, si je me ridiculisais d'une certaine façon, ça marcherait bien mieux parce que c'est un contenu que les gens ont envie de voir. Après, se pose la question, est-ce que j'ai envie de faire cette chaîne YouTube-là? Où je me déguise pour vous faire rire. Non, parce que sinon, j'aurais lancé un autre type de chaîne. Et tu vois, je suis très sérieux en disant ça. Donc, on en vient finalement au problème de est-ce qu'on est sur YouTube pour faire des vidéos qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on est sur YouTube pour faire des vidéos que les gens regardent? Alors, tu me diras au bout d'un moment, si personne ne regarde tes vidéos, tu vas arrêter YouTube. Oui, c'est vrai. Mais je vous le dis, on n'est pas, nous, sur YouTube, uniquement pour faire des vidéos que le plus de monde possible regarde. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour faire des vidéos qu'on a envie de faire. Et si moi, on me dit, écoute, Jérôme, pour survivre, il va falloir que tu mettes un costume de chat ou une plume dans le cul, si c'est pas mon projet, je le ferai pas. Voilà. Alors, là, j'ai l'air de me plaindre. En fait, on n'est pas les seuls à subir ce phénomène. Allez voir toutes vos chaînes tech préférées ou même toutes les chaînes qui ont des sujets qui ne sont pas fit and fun, rigolo, waouh, machin et truc. Tout le monde souffre en ce moment sur YouTube. Des très grosses chaînes qui ont des millions d'abonnés font maintenant très peu de vues par rapport à leur nombre d'abonnés. Il y a des chutes spectaculaires. On n'est pas les plus à plaindre. Hein. Donc c'est pas juste nous en fait. Donc c'est gentil hein, toutes les solutions que vous proposez, mais le problème ne vient pas que de notre contenu en fait, des solutions qu'on pourrait faire nous. Je vais quasiment jamais sur les recos de YouTube. J'aime pas ce qu'ils y présentent. Bah, honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, justement, les recos. Tu vois, si je vous dis ça, c'est que je vais regarder mes recos de YouTube. Je vais voir déjà si je peux vous les montrer. Et on arrêtera là, hein, t'inquiète pas, Samuel. Mais je trouve que là, on a un sujet hyper intéressant. Je vais sur mes recos de YouTube. Alors, oui, je crois que je peux montrer. Ouais, mais ça va pas vraiment. Si, ça va un peu illustrer mon propos. Voyez, le truc, c'est que, bon, on regarde plutôt beaucoup de contenu tech, donc c'est normal, on a des remontées tech, mais McFly et Carlito, par exemple, j'ai pas regardé depuis 3 mois. Et pourtant, continuellement, l'algo me dit « Va voir du McFly et Carlito, regarde, ils ont fait 1,4 million de vues, ça va être rigolo, tu vas pas te prendre la tête. » Bon, là, j'ai pas vraiment d'exemple. Domingo, c'est vrai qu'on regarde assez souvent. Le joueur du grenier aussi, donc c'est normal. Tiens, tu vois, par exemple, ça faisait très longtemps qu'il m'avait pas recommandé du Alex. Alex, c'est un très bon contenu. C'est un très bon contenu. Il a l'avantage en plus de faire ses vidéos en anglais, donc il a beaucoup plus d'audience. Mais j'essaie de vous présenter plutôt des exemples de trucs fit and fun que j'ai regardé une ou deux fois et qui me recommandent systématiquement maintenant, et ça me gave. C'est juste pour vous montrer à quel point, même en regardant énormément de tech ou de documentaires, on me fait quand même remonter du fit and fun dont je me contrefous. Bon, alors Villebrequin, je regardais beaucoup à une époque, je regarde beaucoup moins maintenant. J'ai généralement en première page, j'ai du Villebrequin, j'en ai au moins 3. C'est vrai que là, bah, pour une fois, j'ai pas vraiment plus d'exemples que ça de fit and fun que je regarde pas d'habitude et qu'on me fait remonter. Mais on le voit, hein, même les titres et les trucs de contenu, tout le monde essaye maintenant de faire des manières que vous cliquiez sur les vidéos. C'est assez uniforme quand on y réfléchit. Et ça peut être un problème, quoi. Ça peut être un problème. Bon, nous, vraiment, on n'est pas un bon exemple parce que là, pour le coup, les recommandations sont relativement cohérentes à ce qu'on ressent, à part le McFly et Carlito, c'est assez cohérent avec ce qu'on regarde d'habitude. Mais je vous jure, il y a des jours, je n'ai que du McFly et Carlito et des trucs très sensationnalistes. Daniel Russe, que du respect pour ce qu'il fait, mais c'est pas un contenu que je regarde souvent. J'ai regardé une fois et on m'en balance régulièrement. Du Fabien Olicard, c'est pareil. C'est pas un contenu que je regarde régulièrement. J'aime bien ce qu'il fait, mais je regarde pas régulièrement. Et c'est souvent en première page. Voilà, là, j'ai 2 Fabien Olicard, quoi. Bon. Et ça, c'est une place qui va être prise par rapport à du contenu auquel je suis abonné. Si derrière, je vais sur mes abonnements, j'ai pas du tout le même type de contenu. On est bien d'accord. Ben, dû à Mixem, parce que je regarde de temps en temps. Moi, je suis pas du genre à cracher complètement sur un Mixem. Il fait un contenu qui marche. Vous savez, encore une fois, ne crachez pas sur les gens qui font du contenu qui marche. D'abord, ils ont des business. À Mixem, il a des gens à payer. Il va pas s'amuser à faire du contenu qui marche pas. À Mixem, maintenant, il s'est spécialisé dans le contenu à haute vue qui attire du grand public. Et il le fait bien. Lui, ses vues ne dégringolent pas. Vous comprenez? Après, voyez, juste pour vous donner un exemple télé pour sortir du débat, je ne regarde jamais le contenu de TF1, mais j'ai un respect, on va dire, industriel pour TF1 qui a su industrialiser son contenu et rameuter un maximum d'audience en ratissant large sur des créneaux horaires qui ont fait que TF1 est une des chaînes qui réussit le mieux. Donc j'ai du respect pour ça, même si moi, à titre personnel, jamais je regarderai un contenu de TF1. C'est une des plus grandes chaînes d'Europe, hein, TF1, mine de rien. Oui, oui, Oleg, on va... Mais c'est intéressant. On parle rarement comme ça. Enfin, si, on en parle souvent, mais... Je pense que c'est intéressant. Ah non, Koh-Lanta, j'ai jamais regardé. Je regarde jamais Koh-Lanta, quoi. Je connais pas du tout. Moi, je trouve que c'est important que je vous... Même si on est un petit nombre, je sais pas combien on est, là, en fin d'émission, mais... C'est important qu'on vous explique aussi l'autre côté de la barrière, que vous compreniez comment tout ça fonctionne. Et même si vous n'êtes qu'une dizaine à changer vos habitudes, ça peut changer l'algorithme de YouTube, quoi. Non, mais les modos ont raison de me mettre la pression. J'ai énormément de travail. Ça fait déjà 15 minutes que je devrais être en train de faire du montage sur une vidéo qui va sortir à 17h30. Donc, je vais devoir vous quitter là. À contre-cœur, mais je vous quitte là. On se retrouvera vendredi. Ah ouais, j'ai oublié de vous donner une grosse annonce. Vendredi, en fin de mug, et là, les modos, hein, il y aura une extension du mug. On va durer hyper longtemps vendredi, le mug, puisqu'on a Victor et Yanis de Shadow qui viennent nous rendre une visite vers 9h30. Et donc, vous pourrez poser plein de questions en direct sur le Shadow. Donc, ils viennent en fin d'émission vendredi. Notez-le. Voilà, voilà. Allez. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Souhaitez-moi bon courage. Souhaitez à toute l'équipe bon courage parce que la journée va être chaude et je ne parle pas de température extérieure. Nous, on a beaucoup, beaucoup de taf. Bien sûr, je vais lancer un raid pendant le générique de fin. Ciao. Soyez bons. Soyez les meilleurs. Et demain, c'est Guillaume qui vous retrouve dans le mug. Rendez-vous tout à l'heure, 17h30. Ciao tout le monde.